18h en temps universel, 9h à Paris, midi à Dubaï et à Abu Dhabi. Le journal avec Pierre Boudias.
Emirates suspend tous ses vols à départ et à destination de Dubaï. Décision de la compagnie aérienne alors que les Émirats arabes unis font toujours face à des attaques aériennes de l'Iran. Nous retrouverons notre envoyé spécial dans la région dès le début de cette édition. Une guerre que semble bien déterminée à poursuivre le président américain Donald Trump exige la capitulation totale de l'Iran pour mettre fin au conflit. Une position loin d'être partagée par tous ses concitoyens, vous l'entendrez. Les États-Unis qui entendent bien renforcer leur mainmise sur le continent américain. Le locataire de la Maison-Blanche réunit 12 dirigeants latino-américains à Miami aujourd'hui. Des alliés de Donald Trump qui pourraient bien être contraints de rompre avec la Chine. Et puis il y a 20 ans, le monde du blues perdait l'un de ses incontournables artistes, Ali Farka Touré, décédé le 7 mars, il y a donc tout juste 20 ans. RFI l'avait rencontré 2 ans avant son décès. Nous vous proposons ce samedi de réentendre la voix du guitariste. Le ciel du Moyen-Orient, plus que jamais zone de guerre. Au 8e jour du conflit dans la région, frappes et ripostes se poursuivent entre Iran et axe israélo-américain. Israël qui a notamment intensément frappé Téhéran la nuit dernière. La République islamique réplique. L'Arabie saoudite dit avoir détruit 3 missiles balistiques ce matin. Le Qatar également visé hier. Tout comme l'Irak où les gardiens de la révolution disent prendre pour cible des groupes kurdes séparatistes. Une pluie de bombes qui n'épargne pas Dubaï. Une opération d'interception a eu lieu ce matin au-dessus de l'aéroport de la ville. On vous retrouve sur place, Guilhem Deltaï, bonjour.
Pierre.
Envoyé spécial de RFI dans la région. Et face à cette situation, la compagnie nationale Emirates annonce suspendre ses vols au départ et à destination de Dubaï.
Oui, une décision qui concerne donc les vols au départ comme à l'arrivée, et ce jusqu'à nouvel ordre. La compagnie informe que l'ensemble de ses points d'enregistrement dans la ville sont fermés. Elle demande aux passagers de ne pas se rendre à l'aéroport et d'attendre de nouvelles instructions. Emirates, comme les autres compagnies aériennes du pays, mais aussi Qatar Airways, avait déjà dû annuler l'ensemble de ses vols samedi dernier, après le début des frappes israélo-américaines en Iran et des représailles iraniennes sur les monarchies du Golfe. Mais la compagnie avait repris progressivement quelques dessertes à partir du milieu de semaine, des vols test tout d'abord, puis avait au fur et à mesure étendu ses opérations. Ces derniers jours, le bruit d'avions décollant, survolant à basse altitude la partie historique de la métropole était revenu dans le quotidien des habitants. Emirates a même annoncé vouloir reprendre l'ensemble de ses dessertes dans les prochains jours. Ce nouvel arrêt dans ses opérations marque donc l'impact de ce conflit sur le pays. Depuis samedi dernier, les Émirats arabes unis sont l'un des pays les plus touchés par les tirs iraniens. Ils ont été visés par plus de 200 missiles balistiques, 8 missiles de croisière et près de 1200 drones, Pierre.
Guilhem Deltaï, envoyé spécial de RFI dans le Golfe, merci à vous. Et l'aéroport de Dubaï annonce suspendre ses opérations jusqu'à nouvel ordre. La Ligue arabe va, elle, se réunir demain pour discuter de ces attaques aériennes contre plusieurs pays membres. L'Iran, par la voix de son président Mesoud Pezeghian, présente ce matin ses excuses auprès des pays voisins pour ses frappes, mais assure ne les viser que lorsque des attaques américaines partent depuis leur territoire. Un conflit qui s'étend également chaque jour au Liban. De nouvelles frappes israéliennes ont eu lieu ces dernières heures autour de Beyrouth et de la ville de Saïda dans le sud. Le bilan des opérations israéliennes dans le pays du Cèdre atteint désormais 217 morts et plus de 800 blessés depuis lundi. Des centaines de milliers de personnes ont également été jetées sur les routes. Le Hezbollah assure dans ce contexte avoir déjoué une tentative de débarquement héliporté dans une zone proche de la frontière syrienne. Un conflit qui ne semble pas prêt de s'arrêter tant le président américain semble adopter une position jusqu'au boutiste. Donald Trump qui a affirmé hier que les opérations américaines ne se concluraient qu'avec une capitulation totale de la République islamique. Hors de question, répond ce matin Téhéran. Pas de quoi faire les affaires du locataire de la Maison Blanche confronté à la grogne d'une partie des électeurs de son pays. D'après les enquêtes d'opinion, même si les sondés voient en la République islamique un pays hostile aux valeurs américaines, la majorité d'entre eux désapprouvent les frappes décidées par Donald Trump. RFI Washington, Vincent Souriau.
56% contre, 44% pour et comme toujours une large fracture partisane. L'immense majorité des républicains approuvent l'offensive contre l'Iran et presque tous les démocrates la condamnent. L'autre fossé concerne l'âge des répondants. Les jeunes générations sont parmi les plus réticentes, sans doute plus pacifiques que leurs aînés, mais aussi peut-être parce que l'opposition à la politique étrangère d'Israël y est de plus en plus forte aux États-Unis. Au-delà des appareils politiques, ce sont les électeurs indépendants qui seront surveillés de très près, ceux qui feront basculer les élections de mi-mandat. Les thèmes les plus sensibles sont déjà connus. Si l'administration Trump veut en tirer bénéfice, cette guerre doit être courte, les pertes de soldats américains les plus limitées possibles, et surtout, la Maison-Blanche doit éviter l'envoi de troupes au sol qui constitue une ligne rouge pour la plupart des personnes interrogées. Vincent Souriau, Washington RFI.
Donald Trump en difficulté sur sa politique au Moyen-Orient, mais qui entend bien dans le même temps renforcer son influence en Amérique du Sud. Le président américain reçoit aujourd'hui plusieurs dirigeants latino-américains pour son sommet intitulé « Bouclier des Amériques ». Un rendez-vous à Miami, en Floride, avec les présidents les plus conservateurs de la région. On peut citer l'Argentin Javier Milei, le Chilien José Antonio Caste, le Salvadorien Nayib Bukele, mais aussi les présidents de la Bolivie, du Costa Rica, du Honduras, du Paraguay, de l'Équateur ou de Trinité et Tobago. Pour ces pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et des Caraïbes, cette rencontre se joue surtout autour de l'avenir des relations commerciales avec la Chine. Les explications de Marie Griffon.
Après ce sommet, quel avenir pour la Chine en Amérique latine? C'est la question, puisque Washington va réclamer une réduction des investissements chinois présents partout dans la région, routes, ports, télécommunications, mines ou encore les banques. En 2025, la Chine était le premier partenaire économique de l'Amérique latine. Les échanges commerciaux ont atteint 565 milliards de dollars contre 346 pour les États-Unis. Mais Washington conserve une influence notable, surtout en Amérique centrale, où certains pays commencent à se détacher de la Chine. Le Panama, par exemple, a finalement retiré en février dernier à la société hongkongaise Sekao Chitson les contrats d'exploitation des deux ports du canal. Autre pays qui suit la ligne de Washington, le Honduras, le nouveau président Nasrias Hura, soutenu par Donald Trump, a rompu 80 contrats d'investissement avec Pékin. Si les États-Unis gagnent du terrain sur ces petits pays d'Amérique centrale, les trois plus grandes économies de la région, le Brésil, la Colombie et le Mexique, gouvernés par la gauche, n'ont pas été conviés au sommet. Marie Griffon, Tegucigalpa, RFI.
Les États-Unis haussent une nouvelle fois le ton face au Rwanda. Washington annonce que plusieurs hauts responsables de Kigali vont se voir privés de visa pour entrer sur le territoire américain. Le secrétaire d'État Marco Rubio évoque des actions de ces individus qui visent à saper ou à entraver la paix dans la région des Grands Lacs. Leur identité n'a pas été révélée. Le président rwandais Paul Kagame dénonce lui des pressions sélectives qui viseraient selon lui son pays. Au Népal, le maire de Katmandou remporte les élections législatives anticipées. Ancien rappeur très populaire, Balandra Shah termine devant l'ex-premier ministre Sharma Oli selon le décompte officiel. Il aura désormais la lourde charge d'amorcer le changement demandé par une large partie de la jeunesse. Jeunesse qui avait renversé le précédent gouvernement lors d'un mouvement inédit en septembre dernier. Et puis un hommage pour conclure ce journal. Il y a 20 ans, le 7 mars 2006, disparaissait le musicien malien Ali Farka Touré, génial guitariste de blues dont la carrière aura influencé ses contemporains africains, américains et européens. Olivier Roger l'avait rencontré 2 ans avant sa mort dans son village de Niafunke au Mali. Il nous propose ce matin de retrouver un instant le charme de la voix, la puissance des mots et la beauté de la guitare du musicien.
C'est bon. Cette musique a une biographie, une ethnie, une légende. Parce que si on joue un air en Afrique ici, il n'y a pas un Africain qui ne connaît pas d'où est venu de ses racines. Et c'est ça l'importance. Cette musique a une appellation qui n'est pas le blues. On a le djaba, on a le tangani, on a le seiga, on a le njaru. Alors donc ça, ce sont les racines de ce que les Américains appellent blues. J'ai quitté un ami. Chez nous, il y a beaucoup de légendes dans tous les dialectes. Donc, c'est ce qui m'a donné l'envie, non seulement d'apprendre la guitare, au moins c'est la guitare européenne, et dans laquelle je n'ai pas de maître, jusqu'à là où nous sommes.
Ali Farka Touré, une archive précieuse proposée par Olivier Roger. Elle vient conclure cette édition. Restez avec nous sur RFI, vos programmes continuent.
Ce dimanche sur RFI.
On envoie la viande, surtout de la soule. On va Bismarck, il rappe, Patreon, Quand ce clip sera et à fois de la ville, quand on le remixera,
je suis un roi du rock, y'en a pas de plus haut. Si ce MC peuvent se mettre au boulot, pour ce QC, on le voit au boulot. Ici pas Big War, y'en a pas de plus haut. Je suis un king, ding 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 ding. J'rappe de la ding 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 ding. Scratch mon son sur les plates, ding ding.
Thank you. problème de votre radio, c'est quand on écoute, on est coupé et on l'entend très mal.
Ouais, je sais pas, t'as qu'à acheter un autre poste si ça coupe.
Ah, le poste est très bon. C'est vos émetteurs qui le sont pas.
Ah ben non, le poste est pas bon, parce que c'est pas l'émetteur qui doit faire que ton poste comprend, c'est le poste normalement qui doit comprendre.
Ah, écoute, avec certaines autres radios que la vôtre, ça marche très bien.
Ben ça veut dire que ton poste comprend les autres radios, mais qu'il ne comprend pas celle-ci.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net.
For some reason when I go to yeah.
The comedy of man starts like this. Our brains are way too big for our motherships. And so nature, she devised this alternative. We emerge half-formed and hope whoever greets us on the other end is kind enough to fill us in. And babies, that's pretty much how it's been ever since. Now the miracle of birth leaves a few issues to address. Like say that half of us are periodically iron deficient. So somebody's gotta go kill something while I look after the kids. I do it myself, but what? You gonna get this thing, it's milk. He says as soon as he gets back from the hunt, we can switch. It's hard not to fall in love with something so helpless. Ladies, I hope we don't end up regretting this. That's what I call pure comedy. Just wait until the part where they start to believe they're at the center of everything, and some all-powerful being endowed this horror show with meaning. Oh, their religions are the best. They worship themselves, yet they're totally obsessed with risen zombies, celestial virgins, magic tricks, these unbelievable outfits. And they get terribly upset when you question their sacred texts, written by a woman hating epileptics. Their languages just serve to confuse them. Their confusion somehow makes them more sure. They build fortunes, poisoning their offspring, and hand out prizes when someone patents a cure. Where did they find these goons they elected to rule them? What makes these clowns they idolize so remarkable? These mammals are hell-bent on fashioning new gods, so they can go on being godless animals.
their illusions, they've no choice but to believe. Their horizons that just forever recede. And how's this